vivre aujourd'hui Angers qui accueille Lyon, tandis que Lens se déplace sur la pelouse de Montpellier. Et puis hier soir, Lille s'est imposée à domicile de buts 1 contre Brest. Merci d'écouter RFI, il est 9h10 à Paris.
Radio G. 101.5 FM.
Des impromptus, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons d'entrer dans l'univers à la fois si notoire et si singulier du couple formé par le philosophe Jean-Paul Sartre et sa compagne, auteure du Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir, alias Le Castor. Collé en 1928 à l'agrégation, à l'étonnement de tous, Sartre devance Simone de Beauvoir l'année d'après, puisqu'il est reçu premier et Simone de Beauvoir deuxième à ce concours si sélectif. C'est lors de cette deuxième année de préparation qu'il rencontre Simone de Bertrand de Beauvoir, sympa, jolie mais mal habillée. Joutes intellectuelles et nouveau concept de l'amour nécessaire, scellent cette union hors du commun. Le bail de 2 ans avec le castor se réitérera durant toute leur vie, ce qui n'exclut pas les amours contingentes.
Leur relation épistolaire durera jusqu'en 1963. En 1966, la publication des lettres de Sartre au castor et à quelques autres suscitera scandale et douleur. La volonté de transparence qui était la règle dans leur relation était étendue ici par le jeu d'une publication qui n'épargnait personne. Au moment où nous abordons cette correspondance, en 1940, Sartre est mobilisé, alors que Simone de Beauvoir enseigne la philosophie à Paris. La grande affaire entre les deux amants est la prochaine permission qui doit les réunir, ainsi que le compte-rendu de leurs amours contingentes. Bien sûr, Sartre n'est pas Valmont, et Simone de Beauvoir n'est pas la marquise de Merteuil. Mais il y a cependant quelque chose qui s'approche des liaisons dangereuses dans ce jeu amoureux que leurs lettres détaillent avec complaisance.
Simone de Beauvoir, le 18 janvier. Mon charmant castor, que vous m'avez envoyé une charmante petite lettre, hein, et j'ai le cœur tordu parce que vous aviez l'air d'avoir tellement envie de me voir, et même vous avez versé un petit pleur. Et puis, qu'allez-vous apprendre justement le lendemain ? Que les permissions sont suspendues. Mais écoutez, mon doux petit, voilà qu'elles sont rétablies aujourd'hui même, et avec un pourcentage accru. Demain, Paul parlera au capitaine Munier pour moi et je saurai la date exacte de mon départ. Ce sera certainement au plus tard le 1er février. Mon amour, quand vous recevrez cette lettre, je serai à 10 jours de vous. Seulement, ça ne changera rien à cette journée triste que vous avez dû passer quand je vous ai écrit que les permes étaient suspendues, il est trop tard. C'est ça qui me faisait hésiter à vous le dire, voyez-vous. Je pensais que ça n'était vraisemblablement pas grand-chose, quoique ça m'ait été fort désagréable l'autre jour, mais que les mots faisaient gros. J'ai dit tout juste le premier jour, il y a un retard léger, sans dire quoi. Et puis le lendemain, je me suis sentie contrainte en vous écrivant, parce que je ne vous avais pas dit le vrai. J'ai trouvé ça insupportable, et je l'ai dit, en feignant d'ailleurs une assurance que je n'avais pas tout à fait. Seulement, le lendemain, tout était arrangé, et je regrettais alors cette petite commotion que j'ai dû vous donner. C'est embêtant de dire la vérité par lettre, parce qu'elle se corrige au fur et à mesure, tandis que la lettre est un petit instant figé, qui s'envole vers le correspondant et risque de lui tomber comme une tuile sur la tête. Finalement, si je ne vous avais rien dit, vous ne vous seriez aperçu de rien. Oui, mais alors nos rapports auraient été faussés pour quelques jours. C'est toujours ces histoires de fausse sécurité. La vôtre eût été entière, mais fausse. Et puis, si tout de même ça avait été sérieux, si les permissions avaient été suspendues un mois. Mon amour, n'ayez pas peur, je vous dirai toujours la vérité. Au plus, avec 24 heures de retard, comme cette fois, le temps de poser le cas de conscience. Seulement, c'est désagréable de penser que vous avez reçu aujourd'hui ma lettre de mardi et que vous ne recevrez celle-ci que samedi. Enfin, celle d'hier était tout à fait rassurante déjà, et puis les journaux ont dû vous éclairer. À part ça, mon doux petit, je ne sais pas comment les journées passent. Je me retrouve au soir sans avoir quasi rien fait. Aujourd'hui, j'avais 3 sondages à faire, et puis ce matin, le feu ne prenait pas. Et il faisait moins 23 degrés dehors, vous vous rendez compte? On a claqué des dents jusque vers 10h30, il faisait 3 ou 4 degrés dans notre local. Et puis tout à coup, le feu a pris, et en peu de temps a transformé la pièce en fournaise. Naturellement, je n'ai pas travaillé, j'avais les mains gelées par le sondage. 2 trous au bout des bras. C'est étonnant, vous savez, ce que c'est que le vrai froid. C'est un peu terrible, mais un peu voluptueux. Je sors toujours sans capote pour prendre ces bains perfides. Je ne connais rien qui vous pénètre plus profondément. La chaleur, ça reste extérieur. Mais vous vous rappelez ces condamnés du bagne de Kafka qui lisent leur condamnation avec leur corps, par leur chair. Eh bien, on a cette impression-là. Il semble qu'il y a quelque chose d'extérieur qu'on apprend à connaître avec ses intestins, son foie, sa rate, etc. Et puis alors, quand on revient du sondage dans une pièce pas trop chaude, c'est surprenant aussi comme on a l'impression d'être une petite dynamo qui fabrique son propre froid. Il a l'air de se répandre de vous par ondulation jusqu'au milieu de la pièce et chaque frisson a quelque chose de métaphysique. Pour tout vous dire, j'aime bien ça. Actuellement, il est 9h du soir. Il fait moins 20 au dehors. Il fera moins 25 demain matin. Mais tout cela est pour vous dire que jusqu'à 10h30, je n'ai rien fait. Là, j'ai commencé à noter quelques petites choses sur l'innocence dans mon petit carnet. Et puis ça a été de nouveau le sondage. Et puis nous avons été déjeuner avec Peter au restaurant de la gare qui est déconsigné. L'après-midi, j'ai un peu lu « Classe 22 » de Gläser en allemand. Un type était entré hier sans frapper et m'avait dit assez sèchement en me tendant un livre « Tiens, je te rends ça ». Puis il était reparti. Et c'était « Classe 22 » en allemand que, bien entendu, je ne lui avais jamais prêté. Puis j'ai travaillé à l'innocence et à mon roman. Puis sondage, puis de nouveau travail, puis dîner. Et Missler est apparu avec une bouteille de vin blanc. C'est le nouveau rite. On paye chacun à son tour 1 litre de blanc chaque soir. Et puis voilà, je vous écris. Demain, je n'ai rien à foutre et travaillerai davantage. Il faut que je me presse un peu si je veux que ce chapitre soit fini quand je vous l'apporterai. Voilà ma vie, mon doux petit. Toujours heureuse, bien sûr, mais je crève d'envie de vous voir. Cette fois, ça y est, je peux me le dire et commencer à compter les jours. Dans pas beaucoup plus d'une semaine, je serai avec vous. Voyons, qu'en est-il? Ma mère vous apporte mes habits civils? C'est extrêmement avisé à elle. Si par hasard elle ne le faisait pas, il faudrait les lui réclamer, car je ne veux pas me promener en polichinelle dans Paris, même le premier soir. Je vous aime, mon doux petit. Quelque chose est en train de finir ces jours-ci. notre première longue séparation. Je vais vous revoir tout à loisir. Je vous embrasse sur votre chère petite figure.
Mardi 26 janvier 1940. Mon doux petit, c'est donc vrai, vous allez venir. Je reçois juste votre lettre et ça m'a rendu si fébrile que je crains de ne pouvoir travailler de tout le jour, ni peut-être de la semaine. C'est une espèce d'angoisse que j'ai et pas du tout agréable, avec une envie nerveuse de pleurer. Je pense que dans un, deux jours, la certitude aidant, ça se stabilisera en bonheur. Dans une semaine au plus tard, mon amour. Écoutez, le petit Bost ne parle même pas de venir. Et en tout cas, je m'arrangerai avec lui sur la place. J'irai avec vous ou sans vous le chercher à la gare à son arrivée. Donc, dites à Wanda, comme convenu, que vous venez 6 jours plus tard. Dites-le lui au plus tôt que j'explique mon départ chez ma sœur avant votre venue. Pour votre vêtement civil, votre mère essaie de le garder. Écrivez-lui. Je vais moi-même lui écrire sous le nom d'Eugénie, en la suppliant de le poser hôtel Mistral ou chez moi. J'ai insisté, mais elle s'est entêtée en prétendant que vous étiez d'accord. Je dirais bien que vous arriverez le lendemain. Qu'on veut un long temps, rien qu'à nous, mon petit. Oh, je sens seulement maintenant comme j'avais soif de vous voir, je n'en tiens plus de désir. Si vous venez le jeudi premier, je manquerai le vendredi Henri IV et le samedi Camille C, ce qui ne me fait qu'un jour dans chaque lycée et me laisse 3 journées tout à vous, sans lycée. Je serai dès 4h30 au plus tard, quelques jours que ce soit dans ce café sinistre de la gare de l'Est où nous allions souvent au temps de l'an, à droite en descendant de la gare, tout en boiserie noire, avec une pièce en contrebas, vous savez bien. Ça doit être le 3e en descendant et au coin du boulevard, je crois, avant d'avoir traversé. Dites-moi si vous vous en rappelez bien, mon petit, et si ça vous va. Nous l'aimions bien. J'ai commencé à faire des rêves sur votre venue. La nuit dernière, par une de ces drôles de transpositions enfantines dont je vous ai parlé déjà, j'ai rêvé que j'étais retournée, comme à l'autre guerre, voir mon père Zouave à Villetaneuse, près de Saint-Denis. Et c'était en effet un souvenir de cette route où on l'avait retrouvé avec ma mère. Et je retrouvais mon père avec une joie qui me laissait perplexe, car je me rappelais vaguement que je ne l'aimais pas du tout et qu'il était vieux et gâteux. Et en cherchant qui j'aimais de cette façon-là, vous êtes venu et ça m'a réveillée. Hier soir, j'ai donc traversé le boulevard Saint-Germain et retrouvé aux deux magots Cosse. Il y avait une foule de gens. Elle était coincée à une petite table où je me suis assise aussi et on a mangé du chocolat et des cakes en guise de dîner. Elle m'a raconté une histoire amusante sur Kechelevitch et Thyssen que je vous raconterai de vive voix. On a été au cinéma Récamier, un vieux cinéma de quartier qui garde encore une corbeille pour l'orchestre et où je me rappelle bien avoir été avec ma grand-mère quand j'étais toute petite. On nous a donné un film de gangster fort emmerdant malgré Humphrey Bogart, parce que c'était le genre propagande pour persuader les Américains d'oser se défendre contre le racket. Mais ensuite, il y avait un film un peu mal foutu, mais charmant, avec Bette Davis. Ça s'appelait « Nuit de bal ». On est rentré par un froid glacial, j'ai vite dormi. Ce matin, lycée, on grelottait dans la salle. Les élèves étaient rouges de froid. Une stagiaire a rendu des devoirs, puis j'ai été travailler au Mailleux. Sorokine est arrivée, furieuse à cause des 5 minutes manquées de la veille. Et elle a râlé pendant tout le déjeuner, ce qui a fait que de mon côté, j'ai été sèche. Résultat, au sortir de Camille C, elle était là, toute implorante et nerveuse, et m'a escortée en métro à Montparnasse, ce qui m'a un petit peu exaspérée, mais sans que je le montre cette fois, car elle est bien touchante. Elle veut me voir chez moi demain et on aura encore une grande explication. J'ai eu votre lettre, puis j'ai travaillé, en fait, fort bien au Versailles. Védrine est venue, mais a travaillé et lu mon roman sans me déranger. On est revenu à mon hôtel ensemble. Je suis montée encore travailler une heure et Cos est venue me chercher. Elle m'a emmenée au dôme, où j'ai refusé leur vieille poule malgré les supplications du gérant, et mangé une andouillette. Cos était sinistre, mais aimable comme tout, et m'a expliqué un tas de trucs techniques intéressants sur son travail. Dulin lui caresse le menton à présent. On est rentré à 10h, on s'est joué Bach et la sonate Appassionata, et maintenant je vais dormir. Voilà une lettre bien quotidienne, mon petit. Mais vous me dites que mon quotidien vous fait chaud et tendre. Ainsi est-il d'ailleurs pour vous. Je vous aime, je me dépéris de vous. J'en avais envie de pleurer de désir en entendant Bach tout à l'heure, et encore maintenant. Oh, ma vie avec vous, mon petit, qu'on me la rende. Venez, je vous attends si fort, mon amour. Votre charmant Castor. Je lis un peu le château, que je trouve fameux. Meilleur que le procès, mais d'un sinistre noir.
Simone de Beauvoir, le 23 janvier. Mon charmant Castor, pas de lettre de vous aujourd'hui. La cause en est un accident de chemin de fer qui a coûté la vie à 7 permissionnaires et en a blessé 40 autres. Après ça, on se réjouit prudemment de partir en permission. Comme disait le sergent, est-ce qu'ils partaient en permission ou est-ce qu'ils en revenaient ? Ils en revenaient. Oh ben alors ! Par le fait, j'aimerais autant que ça m'arrive au retour, si ça devait m'arriver. En tout cas, les heures du courrier sont déréglées. On a les lettres le matin, avec 24 heures de retard originel, et ça surprend. Et après ça, la journée est devant vous, vide, bête. Par exemple, il est 4h30, et je vous écris pour avoir un petit contact avec vous, puisque je ne lirai pas vos chères petites pattes de mouche de tout aujourd'hui. Ça coupait bien. J'ai reçu une plaisante lettre de Tania, et puis ce mot, au moins surprenant, de Marianne, signé André Roubaud. Monsieur Sartre, poste de sondage, secteur 108, c'est sur l'adresse, et sur la feuille au-dessous de l'entête. Monsieur, nous aurions plaisir à envisager votre collaboration éventuelle. Voudriez-vous avoir l'amabilité de prendre contact avec moi l'un de ces prochains jours afin que nous puissions convenir d'une heure de rendez-vous ? Veuillez croire, etc. Cette lettre me confirme dans l'opinion qu'on ne prend pas du tout, dans cette drôle de guerre, les mobilisés au sérieux. Ça leur fait les pieds d'ailleurs. Mais enfin, ils ont tout de même une drôle d'opinion à l'arrière sur ce que c'est qu'être en secteur. Qu'ai-je fait aujourd'hui ? D'abord, hier soir, je me suis couchée très tard, vers 1h, et puis le froid m'a tout d'un coup surpris. Il a fait moins 25 cette nuit, c'est-à-dire moins 6 ou moins 7 dans nos chambres. J'ai dû rester 2 heures sans dormir, et puis ce matin, j'avais un petit bouton de froid à la lèvre. J'ai eu grand peur d'arriver près de vous avec un lupus pareil à celui que j'avais en revenant de Grèce. Mais ça s'est séché cet après-midi. J'étais un peu abrutie ce matin en allant chercher le café, mais ça va fort bien à présent. Et j'ai écrit tout le matin sur cette idée de totalité et de morale sans mérite dont nous parlions. On a été déjeuner, Peter et moi, au café de la gare, et un militaire près de nous a émis l'idée, sans base, que nous allions partir. Alors Charlotte a dit en me regardant, « Alors, je ne verrai plus les beaux petits aviateurs. » Et si ça n'était pas ironique, elle n'est pas dure. Vous n'imaginez pas ce que je peux être salingue avec ma barbe, mes favoris et cette ficelle qui retient mes lunettes sur mon nez. Le capitaine disait à Paul aujourd'hui, « Est-ce qu'il coupera sa barbe pour aller en permission ?»« On en cause, » a dit Paul. Et capitaine et lieutenant ont levé les bras aux cieux. « Ce serait tellement dommage. Avec son costume et ses lunettes, ça fait un ensemble. » N'ayez crainte, je la couperai pourtant. Ma mère m'écrit que vous vous êtes mise d'accord pour faire pression sur moi à ce sujet. Je ne veux pas du tout déambuler à Paris toute une soirée en militaire, savez-vous? Envoyez donc un petit coup de téléphone à ma mère pour qu'elle dépose les vêtements chez le concierge et vous pourriez les prendre en taxi, ou bien ce que vous voudrez. Prenez-les quelques jours d'avance pour que ça n'ait pas trop l'air. Vous aurez un télégramme parce que l'affaire sera officiellement réglée le 30 ou le 31. Vous, de votre côté, envoyez-moi l'adresse du café près de la gare où vous m'attendrez. Envoyez-la dès au reçu de cette lettre, car elle va vous parvenir le 25 ou le 26 et moi j'aurai la réponse le 29 ou le 30. Si je mets dans mon télégramme « Arriverait telle date entendue café X », attendez-m'y. Mais s'il n'est pas question de café dans mon télégramme, c'est que je n'aurai pas reçu la lettre. Et dans ce cas, attendez-moi aux Trois Mousquetaires ou, s'il est fermé, au rallye. Enfin, autre chose, il faut se méfier des télégrammes. J'écrirai donc jusqu'au dernier jour. Si vous ne recevez pas de télégramme, fiez-vous à ce qu'il y aura dans ma dernière lettre. Mon amour, voilà des lettres tout affairées qui sentent l'arrivée, n'est-ce pas vrai ? Ça m'amuse tant d'aller à Paris, comme nous serons heureux tous les deux. Mon cher, cher, charmant Castor, je vous aime.
Jeudi 25 janvier 1940. Tout cher petit être, et oui, que vous avez l'air affairé dans vos lettres, mon petit, mais que c'est plaisant. Je sens fort maintenant que dans une semaine, à cette heure-ci, je tiendrai votre petit bras. J'écris demain à votre mère pour le costume. Pour le café, dites-moi vite si vous avez bien compris. À droite, en descendant de la gare vers Paris, le troisième ou quatrième où nous allions souvent au temps de l'an avant de remonter jusqu'à la gare du Nord. C'est, je crois, le dernier avant de traverser le boulevard perpendiculaire. Tout en boiserie noire, à deux pièces, dont l'une un peu en contrebas. Voyez-vous ? J'y serai à 4h30. Et vous y attendrez jusqu'à la mort. Venez-y bien. J'ai bien dormi. Je ne sais pourquoi, ce matin, je me suis réveillée absolument sinistre. À la poste, j'ai trouvé deux lettres charmantes de Bost, mais qui m'ont encore assombri, parce qu'il parle de camarades à lui qui, faisant partie de corps francs, ont essuyé des coups durs et reçu des croix de guerre. Qu'est-ce au juste qu'un corps franc ? Ça aurait pu aussi bien être lui. J'ai eu une peur rétrospective qui m'a secouée. Et puis le printemps approche, les journaux sont pleins de rumeurs mauvaises. Ces permissions, ça me fait comme une dernière entrevue avec sa famille qu'on accorderait à un condamné à mort. Pas la vôtre, grâce au ciel, mais la sienne, quand il écrit si gentiment, ça ravive mes sentiments pour lui et aussi mes angoisses. Et puis, je ne croyais encore qu'à demi à votre permission, et votre lettre n'était pas là. Et j'ai été m'asseoir au Dupont, l'âme sombre comme la nuit. Je m'étais acheté pourtant un beau carnet, pareil au vôtre, pour y marquer mon histoire. Et j'ai remis à jour ce petit journal pendant près d'une heure, tout en buvant un chocolat et en entendant la musique de la TSF qui me semblait à glacer le cœur. J'étais reprise dans la guerre et ça me faisait affreux. Ça a passé depuis. Et maintenant, je suis au contraire fébrile de joie, à en pleurer. Je pense que je vais vous voir, vraiment, vraiment. Et c'en est presque insoutenable. Quoique je sache parfaitement que ce sera si simple de se retrouver comme la dernière fois, mon amour. J'étais à Camille C. et j'ai croisé mes élèves qui, gantés, chapeautés, le masque à gaz dans les mains, s'en allaient en file dans la maison d'en face. C'était un exercice d'alerte. Et j'ai pu, pendant 20 minutes, assise dans un des somptueux fauteuils de cuir de la salle des professeurs, lire Le Château, qui m'enchante toujours autant. Ensuite, classe. Sorokin était à la sortie, souriant au possible. On a déjeuné, c'était tout plaisant. Elle était heureuse et charmante. Elle m'a demandé de lui offrir un stylo que j'ai été lui acheter. Et puis j'ai fait mon cours à Henri IV. À la sortie, j'ai salué 5 minutes Védrine au Mailleux. J'ai été à la poste et où j'ai lu immédiatement votre lettre qui m'a jetée dans la joie. Je crois que c'est acquis maintenant. J'ai été travailler au Dôme, mais les boubous ont passé et Védrine s'est ramenée pour lire mon roman. Et tout ça m'a un peu dérangée. Elle m'a fait quelques critiques justes. Je voudrais tout retoucher pour vous montrer un pur chef-d'œuvre de première partie. Je serais bien déçue si elle ne vous semble pas parfaite. Mais il faudra me le dire sans fard. Et puis comme il n'y avait plus d'encre dans ma capsule, j'ai été en acheter. Mais j'en ai pas trouvé et j'ai acheté une bouteille dans laquelle je plonge le stylo comme un vulgaire porte-plume. C'est humiliant. Maintenant, je vais sortir avec Cos. Je pense que rhume et fatigue, tout sera fini jeudi prochain et que vous aurez un beau castor. En tout cas, il sera si heureux de vous voir, mon cher, cher amour, que j'ai besoin de vous, votre charmant castor. PS, je trouve marrant le petit mot de Marianne. Durant cette drôle de guerre, le soldat Sartre est chargé de sondages météorologiques. Ses fonctions lui laissent des loisirs qu'il emploie dans l'écriture de grands ouvrages comme L'âge de raison, premier volume des chemins de la liberté. On s'étonne, au travers de la correspondance que s'échangent Sartre et Beauvoir, de leur absence de conscience politique dans les débuts de cette guerre. Le 31 août 1939, Sartre affirmait que la guerre n'arriverait jamais. « Il est, disait-il, impossible qu'Hitler songe à entamer une guerre avec l'état d'esprit des populations allemandes. » Un an après, cependant, prisonnier à Trèves, dans un camp de 25 000 prisonniers, il abordera le théâtre et s'impliquera dans des choix politiques en faveur de la résistance. Il parvient à se faire libérer en 1941 et revient véritablement changé par cette épreuve. Simone de Beauvoir s'en dit effrayée. Nous avions l'impression de ne pas parler tout à fait le même langage, dit-elle, alors que lui affirmait qu'il n'était pas revenu à Paris pour profiter de sa liberté, mais pour agir. La suite de cette abondante correspondance permet au lecteur de se faire une opinion sur l'engagement de Sartre et de Beauvoir, ainsi que d'autres intellectuels durant cette période de l'après-guerre. Le différend, puis la rupture avec Camus, en est l'un des exemples les plus frappants. On y découvre aussi le charisme de Sartre, voire l'emprise ambiguë sur ceux qui constituaient ce qu'il appelait « sa famille ». Se révèle alors de façon ambivalente la figure mythique de ce couple lié par un pacte qui ne se rompra qu'à la mort de Sartre en 1980. Les lettres que nous avons lues sont extraites de Lettres au Castor et quelques autres et de Lettres à Sartre. Les extraits musicaux étaient de Dexter Gordon. À bientôt dans une prochaine émission. Anne Pronneau,
Marie Béraille.
Impromptu.
With your woman, dance. Slow dance with your man, slow dance with your woman, yeah. Everybody slow dance, slow jam, slow dance with your woman, slow dance with your man, slow dance with your woman, everybody slow dance, slow jam. With your woman, slow dance with your man, slow dance with your woman, everybody slow dance, slow jam, slow dance with your woman, slow dance with your man, slow dance with your woman, everybody slow dance, slow jam. With your woman, slow dance with your man, slow dance with your woman. In a decision, everybody slow jam, slow jam. Dance with your woman, slow dance with your man. In a decision, everybody slow dance, slow jam. Slow jam. In a decision, everybody slow dance, slow jam. We'll be right back.
chair, grandma. Or rather, would you care to dance, grandmother?
Je suis le descendant de Fakoly. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Yes, moi c'est Tikendia Fakoly sur Planète Reggae, sur la radio G 101.5. Tikendia Fakoly.
Yes, merci Tikendia. Et retrouvez Planète Reggae tous les mercredis à 22h sur Radio G.
Mmh, Niyanga Kalele, yeah.